La Russie riposte et expulse 60 diplomates américains et ferme le consulat américain de Saint-Pétersbourg. Raphaël.
Ben écoute, Paul, on s'était parlé de ça, évidemment, lundi, quand ça avait été annoncé, et on avait reconnu ce qui, je crois, était assez évident, soit qu'il s'agissait de sanctions à l'égard de la Russie qui étaient particulièrement musclées. C'est pas tous les jours qu'on fait fermer de force là un consulat ou une ambassade russe dans une métropole américaine. Et on se demandait, évidemment, quelle serait la réponse de la Russie. Pas s'il y aurait une réponse, mais de un, quand est-ce qu'elle viendrait, et de deux, quand ce jour-là arriverait, à quoi est-ce que ça ressemblerait exactement? Mais là, on a eu la réponse, et la réponse de Vladimir Poutine, ben, c'est essentiellement œil pour œil, dent pour dent. Vous expulsez 60 diplomates russes des États-Unis, ben, je vais expulser 60 diplomates américains de la Russie. Vous fermez un consulat américain à Seattle, vous fermez un consulat russe à Seattle, je vais forcer la fermeture d'un consulat américain à Saint-Pétersbourg, qui est évidemment une des villes les plus importantes de la Russie. Donc, au niveau diplomatique, évidemment, on n'est quand même pas dans une situation de guerre froide, là, mais d'un point de vue diplomatique, c'est quand même pas à tous les jours ou même à tous les ans qu'on voit ça. Et je pense que c'est un euphémisme de dire que la tension diplomatique entre la Russie et non seulement les États-Unis, mais de façon plus générale, l'Occident, vient vraiment de monter d'un cran aujourd'hui.
Et la tension monte toujours autour du président Trump. Il a, comme j'ai dit aujourd'hui, un nouveau membre de son cabinet, cette fois autour du secrétaire aux anciens combattants.
Paul, si je te demandais de deviner comment l'annonce du congédiement a été faite, est-ce que tu penses que tu serais capable de deviner?
Ben, peut-être par texto.
Ça a été fait par Twitter. Grosse surprise. Donc, un sixième membre du cabinet Trump. Juste rappeler là, à nos auditeurs, à nos auditrices, là, un cabinet présidentiel, c'est un petit peu comme un conseil des ministres au Canada. Imaginez si le premier ministre du Canada ou, pour tant qu'à ça, le premier ministre du Québec congédiait, pas remplaçait, là, congédiait 6 ministres en l'espace de 14 mois. C'est ça que Donald Trump vient de faire avec ce sixième congédiement, donc dans ce cas-ci de David Shulkin, qui était le secrétaire aux anciens combattants. Là, évidemment, lorsqu'on parle de M. Shulkin, on parle d'un cas quand même assez spécial parce que c'était un type qui était surtout un fonctionnaire, je te dirais, un fonctionnaire de carrière qui avait œuvré notamment au sein de l'administration Obama. Mais il reste que c'est quand même quelqu'un que Donald Trump avait choisi. C'est quelqu'un que Donald Trump avait nommé pour être son secrétaire aux anciens combattants. Et ce n'est pas un poste comme les autres pour cette administration-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pendant la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump avait beaucoup, beaucoup insisté sur le sort, je devrais dire même le mauvais sort selon lui, qui était réservé aux anciens combattants. Ça faisait partie, je te dirais, de sa rhétorique du tout début de la campagne jusqu'à la toute fin. Et ça faisait partie de ses promesses aussi les plus importantes de dire, écoutez, on a des centaines, des milliers d'Américains qui ont donné, non seulement dans certains cas, leur temps, mais carrément des fois des parties de leur corps là, qui ont été blessées de façon extrêmement grave, qui rentrent aux États-Unis et qui doivent attendre pendant des semaines, des fois des mois avant d'avoir de simples traitements qui ont de l'allure. Moi, je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper d'eux quand je vais être élu président. Donc, c'est un poste assez névralgique au sein de son cabinet. Et donc, on remercie ce type-là et on le remplace par Ronny Jackson, qui jusqu'à maintenant était un médecin de la Maison-Blanche, un type qui est également assez respecté. Donc, on verra combien de temps lui durera, mais pour l'instant, ce qu'on observe au final, c'est un sixième congédiement au sein du cabinet Trump.
Et il va le remplacer par un proche qu'il connaît depuis longtemps.
C'est ça. C'est ça.
Les fils de Donald Trump s'en prennent à un ancien adversaire politique de leur père, Jeb Bush.
Écoute, ça aussi, c'est un petit peu un secret de polichinelle de dire que c'est pas tout à fait le grand amour entre le clan Bush et le clan Trump, surtout depuis la campagne présidentielle, parce que Donald Trump t'a fait carrément un lavage de Jeb Bush. Il a, écoute, ridiculisé comme on ridiculise un souffre-douleur dans une cour d'école. C'était vraiment ça. Et il a continué à le faire même après les primaires républicaines, même quand Jeb Bush avait été battu à plat de couture. Et Jeb Bush ne l'a jamais vraiment toléré. Ça ne l'a jamais vraiment digéré, non seulement cette défaite-là, mais cette humiliation-là aux mains de Donald Trump. Et il y a encore, à quelques reprises dernièrement, eu des sorties publiques de M. Bush à l'égard de M. Trump, des sorties évidemment négatives, la plus récente d'entre elles datant en fait de à peine quelques jours, lors de laquelle Jeb Bush aurait dit, ben écoutez, devant un public, là, écoutez, moi quand j'ai perdu la course pour la présidentielle en 2016, ben, je suis rentré à la maison et j'avais des enfants qui m'aimaient, qui eux m'accueillaient. Et ça a été vu, ça a été compris, ça a interprété comme une espèce d'attaque à l'égard de Donald Trump et de sa famille, de ses enfants. Et la réplique, non pas de Donald Trump dans ce cas-ci, mais de ses deux fils, ne s'est pas fait attendre. Eric Trump, donc l'un des deux fils du président, évidemment, a répliqué à Jeb Bush sur Twitter en disant « J'aime beaucoup mon père ». Donc, rien de trop spectaculaire dans cette réponse-là. Mais c'est la réponse du deuxième fils de Donald Trump Jr. qui, elle, est allée faire couler beaucoup plus d'encre. Je te la cite. Jeb, j'aime tout à propos de mon père. J'aime qu'il soit un battant. J'aime qu'il a du guts. J'aime qu'il soit président. Entre parenthèses, toutes des choses que tu n'es pas. J'aime aussi le fait qu'il ait suffisamment appris de la politique en quelques semaines pour te démolir pièce par pièce, oui, même si toi, tu en avais fait une carrière. Fin du tweet.
Mais ça va finir par des combats de boxe. Un avec Joe Biden, le gagnant, je prends, contre Jeb Bush. Ça n'a pas de sens.
Peut-être, Paul.
Ben, peut-être. Et rapidement, rapidement, Cynthia Nixon, si vous avez suivi Sex and the City, c'est elle qui jouait Miranda Hobbs, et elle a lancé sa campagne pour devenir gouverneur de l'État de New York.
Ben oui, je l'avais évidemment dit lorsque ça avait été annoncé, et là, je dois t'avouer que Mme Nixon, qui est elle aussi un petit peu comme Donald Trump, soit dit en passant, une néophyte complète en politique, a un certain don, un petit peu comme Donald Trump aussi, en raison évidemment de sa célébrité, pour s'attirer de la couverture médiatique. Elle en a encore obtenu aujourd'hui lorsqu'une de ses anciennes co-vedettes, en fait la vedette principale de l'émission Sex and the City, Sarah Jessica Parker, est sortie sur Twitter pour annoncer officiellement, ça évidemment il n'y aura pas de grande surprise, qu'elle appuyait la candidature de son amie qu'elle a, et son ancienne co-vedette qu'elle a décrit comme étant une mère, une activiste, une battante, une New-Yorkaise, une grande amie et une sœur à la fois à l'écran et hors de l'écran. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas dire que Mme Nixon ne sera pas la prochaine gouverneure de New York. Après tout, il y a des néophytes qui se sont rendus encore plus rapidement dernièrement.
Et avec un nom de famille semblable, elle était prédestinée à la politique.
En effet.
Cynthia Nixon, est-ce qu'on reverra Nixon, le nom de Nixon associé à la politique?
C'est peut-être bien possible.
Peut-être comme gouverneur de l'État de New York. Merci, Raphaël, à demain.
À demain.